amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante coproduit avec l'Hacienda, la communauté des fans de Silicon Carnet. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission. Je vis à San Francisco depuis maintenant plus de 10 ans et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités les sujets caliente de la Silicon Valley. Alors, je vous le rappelle, cette émission, si elle existe, c'est avant tout grâce à vous. Elle est entièrement coproduite par les auditeurs de Silicon Carnet. Il n'y a pas de sponsor, pas de publicité. Les contenus sont entièrement accessibles de Silicon Carnet. Et si vous voulez aider Silicon Carnet, il vous faut acheter un des NFT de Silicon Carnet. Ça se passe sur siliconcarnet.uncut.fm et devenez un membre de l'Hacienda en achetant ces NFT. Non seulement vous faites partie de l'Hacienda, vous pourrez parler avec les autres auditeurs de Silicon Carnet, avec nos invités, et faire partie de plein d'autres événements qu'on organise quotidiennement dans l'Hacienda. Le membership ne coûte que $35 pour l'année, donc c'est donné, c'est cadeau. Allez, retour à votre épisode. Avez-vous déjà entendu parler de l'électronisme ? Derrière ce néologisme plutôt réussi se cache en fait une vérité sourde et gênante. En France, selon l'INSEE, près de 17% de la population est incapable d'utiliser les outils numériques du quotidien. On parle rarement de ce problème et on a du mal à imaginer sa vie sans Internet dans le monde hyper connecté qu'est le nôtre. Pourtant, ce blackout digital est le quotidien de 13 millions de personnes en France, 13 millions d'adultes, tous âges confondus, qui se retrouvent aujourd'hui démunis face à une dématérialisation galopante des services publics et privés et qui ont renoncé à utiliser les outils numériques à leur disposition. Le phénomène est encore plus dramatique quand on sait combien Internet est devenu indispensable, que ce soit pour étudier, travailler, accéder à certains soins, payer ses impôts, se divertir ou encore consommer. On parle dans Silicon Carnet cette semaine des laissés pour compte du digital avec mes invités PPC et Benjamin Marteau. Alors PPC, on te connaît, derrière cet acronyme, ces trois lettres se cache un Chief Digital Evangelist. Tu travailles pour un grand groupe qu'on va pas citer, mais français. Mais tu es surtout un podcasteur de génie. Je t'écoute pratiquement tous les matins avec ce podcast que tu fais à 7h30, c'est ça, tous les jours? À quelle heure?
Un peu plus tôt maintenant.
Plus tôt que 7h30?
on démarre avec l'invité à 7h10, on est en direct de 7h20 à 7h50. Tous les matins, et ça donne une pêche d'enfer, et c'est vraiment une raison, et la raison de la création de ce podcast, c'était justement pour tendre la main à celles et ceux qui sont un peu paumés par le digital. C'est comme ça que ça a commencé.
Ça s'appelle Bonjour PPC, c'est donc quotidien. Moi, je ne sais pas du tout comment tu fais, parce que moi, j'ai un épisode par semaine et qui me prend un temps pas possible, et j'arrive pas à comprendre comment tu arrives à avoir des sujets tous les jours, trouver des invités, tu as plusieurs invités tous les jours, et c'est d'une qualité absolument incroyable. Donc félicitations, je suis fan de Bonjour PPC. J'ai d'ailleurs aussi TNFT de la communauté Le Digital pour tous. Et effectivement, comme tu le dis, Le Digital pour tous, c'est ton credo, c'est ta marotte. Ça fait des années maintenant que tu évangélises les foules, tant sur le grand public, mais aussi les professionnels au digital. Et merci pour tout ce que tu fais. On va en parler.
Merci,
et bien
Carlos.
Évidemment. Je voulais que tu sois dans Silicon Carnet pour parler de ce sujet de l'électronisme avec Benjamin Marteau. Alors, on ne se connaît pas avec Benjamin. C'est Laurent Joly de Lalilo qui m'a soufflé ton nom. Benjamin, bienvenue dans Silicon Carnet. Tu es le directeur de Pix. Alors, moi, je pensais que c'était une start-up et j'allais dire, t'es le CEO. Mais tu m'as dit non, c'est un service public, Pix.
Alors bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation Carlos. Pix, c'est une start-up et un service public. C'est ce qu'on appelle une start-up d'État.
Et ouais.
C'est fait pour faire réagir, mais l'idée surtout c'est qu'on doit être capable de produire des services publics à la manière des start-up, avec une recherche d'impact qui ressemble à celle que peuvent avoir des startups et des méthodologies qui ressemblent. Et ce que fait Pix, c'est un service public donc en ligne qui a pour mission d'aider chaque Française et chaque Français à cultiver ses compétences numériques tout au long de la vie.
Ouais, donc tu es pile dans le sujet, donc c'est nickel. Et quand tu dis, alors je suis un peu curieux là, quand tu dis start-up d'État, ça veut dire que vous êtes organisé comme une start-up, c'est-à-dire que vous avez cette agilité d'une Exactement. Start-up, mais le capital est détenu par l'État, c'est ça ?
Pas de capital, et on a, moi mon board c'est l'État avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, le ministère okay. du Travail et d'autres acteurs publics.
D'accord, donc vous ferez pas la culbute, vous allez pas rentrer en bourse quoi.
Et puis je vais pas devenir milliardaire. Mais on essaye d'être ouais. une licorne d'État, c'est-à-dire un milliard d'euros en impact, quoi.
Ouais, bien sûr. Mais c'est génial. Non, mais je ne savais pas que ce modèle existait. C'est fascinant. Bon, ici, aux États-Unis, on n'a pas de start-up d'État. Quoique, est-ce que la NASA n'est pas une start-up d'État, finalement ? Est-ce que ce n'était pas un exemple de start-up d'État, la NASA ?
Bon, je ne saurais pas dire. Je ne sais pas comment a été créée la NASA à son démarrage. Mais l'idée, c'est que vraiment, tu peux être un agent public, ouais. Être un fonctionnaire et avoir une bonne idée et avoir besoin de le conduire à la manière d'une start-up, avec une forme de liberté et en même temps de loyauté vis-à-vis de l'État et de ses missions.
Alors, tu dis quelque chose, Benjamin. Je lisais ce que. Il y a notamment un article que j'ai trouvé dans L'Étudiant il n'y a pas longtemps où tu dis qu'il existe une fracture numérique en France, mais on n'y pense pas toujours en termes de compétences. Il faut engager aujourd'hui un effort national massif de formation sur les compétences numériques. Donc, à ton avis, il y a effectivement une fracture numérique réelle en France et ça devrait être une priorité nationale. C'est ton message ?
Bah, c'est mon message et mon message, c'est qu'il faut qu'on se bouge toutes et tous, et que ce soit dans le public ou qu'on soit dans le privé. Je pense que les chiffres que ouais. tu citais en ouverture parlent quand même d'eux-mêmes. Si avec des chiffres comme ça, on se dit pas qu'il faut agir et agir vite et fort, c'est qu'il y a un gros problème. Les fractures numériques, enfin parce que je parle plutôt de deux fractures numériques au pluriel, il y en a plusieurs. On pense souvent aux zones blanches, hein, des fractures qui peuvent être territoriales et des fractures ouais, en termes d'équipement.
On va en parler.
On a des fractures en termes de compétences. Et en termes de compétences, quand on a vu dans la phase Covid, je pense que les gens l'ont plus mesuré dans cette période-là, avec les confinements, etc. Mmh. Ne serait-ce que pour s'inscrire à un vaccin, à un rendez-vous de vaccination, c'est compliqué pour pas mal de gens. Et donc, on a besoin, sauf à regarder, les mouches volées et les balles passées, on a besoin d'arriver tous ensemble à faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes possibles qui soient en situation de difficulté, parce que c'est très compliqué pour ces personnes-là. Et en plus, c'est peut-être nous demain, hein, ces personnes-là. Et de l'autre côté, on a besoin aussi de penser comment on fait, parce qu'il y a des gens qui vont rester en situation d'électronisme, parfois qu'on a un certain âge, même si c'est loin d'être que les personnes âgées, on va parler
des différentes populations qui sont touchées.
Mais il faut aussi qu'on pense l'accès aux services publics ou privés pour des gens qui ne sont pas dans le monde numérique complètement, donc il faut quand même préserver ça.
PPC, c'est vrai, il a raison, Benjamin, le Covid nous a mis face au digital par défaut, c'est-à-dire qu'on n'avait plus le choix, on était enfermé chez nous, notre seule fenêtre pour s'échapper finalement de nos 40 ou 50 mètres carrés, c'était cet écran digital. Et donc, les gens ont dû s'approprier fortement le digital. Et je pense que les compétences ont énormément augmenté, notamment grâce au Covid. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu non plus un trop-plein ? C'est-à-dire que les gens, tu me donnais quelques anecdotes, on en a eu marre quoi, aussi de ce trop digital. Et ils sont certes progressés certainement sur cette question-là, mais ils n'ont pas toujours été séduits non plus par ce qu'ils ont vécu.
Ouais, y a eu cette accélération, tu fais bien de le dire. Hein. C'est vrai que pendant cette période-là, les seuls moyens d'être en connexion avec le monde extérieur, avec la famille, avec les collègues de boulot, c'était d'ouvrir un écran, d'ouvrir une caméra, de se parler. Et si on n'arrivait pas à le faire, on se retrouvait un peu tout seul, ou alors seul avec sa famille, avec les personnes avec lesquelles on était confinés. Et puis moi, j'ai pensé surtout à ceux qui étaient en solo chez eux, dans des petits apparts, dans des chambres de bonne, où là, c'est très compliqué. On a quelques mètres carrés autour de soi, et le seul moyen de pouvoir, être en contact avec le monde, c'était de passer avec le digital. Les jeunes s'en sont bien et mal, mal servis, parce que ceux qui étaient en alternance, finalement, ont vécu l'entreprise à distance. Très compliqué, ouais, je pense, pour démarrer une carrière sur le sujet. Donc, ça amène une complexité. Et puis d'autres, on l'a laissé un peu tomber. C'est-à-dire qu'il y a la Zoom fatigue. On en a entendu parler à cette époque-là. D'enchaîner Teams, Zoom, Google Meet en permanence, c'était vraiment crevant. Donc, avec une envie, le week-end, c'était peut-être de débrancher totalement. Et puis, on s'est aussi rendu compte, cette dépendance avec les outils, les pirates, les scams, des complexités, des trucs qu'on ne savait pas faire. Pas très simple. Hein. On a accéléré, le niveau, je pense, est monté.
Et on a aussi découvert la complexité de la chose,
C'est extrêmement complexe. Et puis, on s'est rendu compte aussi, c'est pour ça que moi, je dirais sur cet épisode, et je suis ravi que tu fasses cet épisode sur l'électronisme, même si je n'aime pas le terme. Je reviendrai peut-être là-dessus tout à l'heure, parce que je trouve qu'il...
Pourquoi tu n'aimes pas le terme? Parce qu'il est trop proche de l'illettrisme, ouais, en fait, c'est
enfin,
ça?
En fait, c'est bien, mais globalement, moi, je trouve que ça... On a l'impression de montrer du doigt, en fait, des incultes du numérique. Je vous rassure, moi, j'en suis un. Mais le vrai sujet, je pense, derrière ça, c'est plutôt... Enfin, il faudrait tourner la table. C'est un sujet d'inclusion, en fait.
Ouais.
Et je pense que le truc, il faut tout faire pour finalement aider ceux les mots sont durs, mais je pense qu'on souffre d'un handicap face à ce monde des applications, du tout numérique, de la vitesse en permanence, peut-être du côté anxiogène qu'on peut avoir avec ce numérique, avec les scams, les haters sur les réseaux sociaux, les pirates de partout, les arnaques quand on est démuni, on ne connaît pas les codes du digital. On reçoit tous en permanence des SMS, on ne sait pas si c'est le bon livreur, pas le bon livreur, s'il nous manque un truc sur notre critère. Bref, c'est compliqué. Et le terme électronisme, pour moi, il accentue
il est trop clivant.
Et puis de quel droit on dit c'est un phénomène l'électronisme, mais dès qu'on s'adresse à des personnes, et si on revient à des personnes, c'est quand même dur de dire t'es illettré du numérique. C'est violent. Donc, on rajoute une deuxième couche, quoi. C'est sympa. Merci.
Un des problèmes, je partage ce que tu viens de dire, PPC. Une des difficultés, c'est qu'il est on-off, ce terme. Il donne l'impression que tu es dans une situation d'électronisme ou non. Il a le mérite de poser... c'est un terme qui est fort. Donc, souvent, les termes forts, ils permettent de poser le problème sur la place publique. Et d'ailleurs, on fait le podcast là-dessus. Donc, ça a quand même un certain mérite. Après, la difficulté, c'est que ce qu'on a coutume de dire, même la fracture numérique pose question là-dessus, c'est que c'est au sein de chacun d'entre nous. On peut se retrouver par moment en difficulté avec le numérique. Même si on est très, très, très à l'aise avec le numérique, on peut se retrouver à avoir exposé ses données. Et parce qu'on a un défaut de compétences numériques sur les questions de protection des données, de sécurité, etc., et on va se retrouver en difficulté dans le monde numérique qu'on pensait pourtant si bien connaître. Et donc, vraiment l'idée cœur, je pense, c'est qu'il y a un sujet énorme sur quelles sont les compétences numériques dont dispose tout un chacun. Et dans le confinement, il y a une chose qui est très intéressante qui est arrivée, c'est qu'on a compris que ces compétences, elles étaient extrêmement volumineuses, il y en a beaucoup, qu'elles étaient complexes et qu'il fallait aussi les appréhender en tant que telles. Je prends un exemple. Avant, la formation professionnelle, par exemple, était très structurée en France sur les sujets numérique autour de la bureautique.
Ouais.
C'était le sujet de la bureautique, etc. Ou pour les métiers du numérique, encore autre chose. Mais tout ce qui est de l'ordre de la communication, la collaboration en ligne, c'était très faible. Tout ce qui est de l'ordre de la protection de la sécurité, de la protection des données personnelles, c'était pas énorme. Tout ce qui est de l'ordre de la recherche d'informations, qui sont les compétences sur lesquelles on travaille depuis longtemps, il fallait un petit peu batailler. Moi, je vois côté PIX, on s'est lancé en 2016, il fallait quand même dire pourquoi c'est important, etc. Aujourd'hui, on a pu le faire. Les gens ont conscience de ça, et rien que ça, c'est très positif, indépendamment de est-ce qu'on adhère ou non au terme électronisme.
Mais regardons quand même quelques chiffres qui montrent quand même l'ampleur. Je suis d'accord, on est tous quelque part, on a tous notre seuil d'incompétence face au digital, ça c'est évident. Mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'on n'est pas tous équipés pareil qu'en fait face au digital. Une famille modeste sur quatre n'a pas l'équipement nécessaire à la scolarité de ses enfants. Et on pourra en parler, Benjamin, parce que tu as été directeur de cabinet adjoint auprès de l'Éducation nationale en 2012-2014.
Chef de cabinet adjoint, qui n'est pas tout à fait la même fonction.
Chef de cabinet adjoint. Je suis toujours du mal avec les titres de noblesse. Mais 22% des personnes ne disposent pas à leur domicile d'un ordinateur ou d'une tablette. Et surtout, quand on les interroge, 28% s'estiment peu ou pas compétents pour effectuer une démarche administrative en ligne. Donc, et quand on regarde un petit peu la démographie de tout ça, on se rend compte que cet illettrisme numérique, même si on n'aime pas ce terme, il touche en fait plein de personnes. C'est pas simplement les personnes âgées. On pense bien évidemment aux personnes âgées qui ont dû avoir à faire un effort supplémentaire pour s'intégrer dans ce monde digital qui n'était pas le leur, ça c'est évident, mais c'est pas simplement ces gens-là, Benjamin, les jeunes aussi.
Bien sûr, et ça c'est quelque chose, on a beaucoup souffert du mythe des digital natives, à double titre. Pourquoi ? D'un, on a pensé que c'était une histoire presque de remplacement générationnel qui allait régler le sujet des compétences numériques pendant longtemps, sans faire d'effort, presque par la magie de la génération spontanée des compétences chez les jeunes. Et la deuxième chose, c'est que du coup on s'est dit, les jeunes, ça va à peu près. Tout le monde s'est pas dit ça, mais quand même, c'était la doxa et l'opinion dominante. On a à peu près en France 20%, c'est tout 18-20%, ça dépend des enquêtes, des jeunes qui disent qu'ils sont pas à l'aise avec le numérique, qu'ils peuvent pas maîtriser suffisamment les outils numériques. Nous, chez Pix, alors Pix, nous on dit tout à l'heure, donc on fait des tests de compétences numériques et on essaye de développer les compétences des gens. Et on a un peu plus de 4,5 millions d'élèves chaque année qui utilisent notre plateforme, parce qu'on est obligatoire en France de la 5e jusqu'à la 2e année de BTS, et puis on a plein d'étudiants, etc. On voit bien.
Ah d'accord, c'est obligatoire, c'est-à-dire que ces tests-là sont devenus obligatoires en France.
Ouais, en France, en fait, on a été créé donc pour répondre, pour contribuer à répondre avec d'autres au défi des compétences numériques, et on est obligatoire donc de la 5e à la 2e année de BTS classe prépa. À l'université, on a une centaine de milliers d'étudiants qui utilisent Pix chaque année, puis après dans le professionnel, etc., on y reviendra tout à l'heure. Mais ce que l'on voit bien, c'est que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on sait faire du tableur. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on maîtrise la question des données personnelles. En fait, on a souvent une vision un peu biaisée en trompe-l'œil d'une maîtrise manipulatoire de plein de choses qu'on cherche à valoriser au travers de Pix, parce qu'il faut aussi avoir un discours équilibré, savoir faire plein de choses. Et les jeunes sont pas tous les mêmes, hein, mais il y a beaucoup de choses que savent faire les jeunes qu'on doit valoriser, et on essaye de leur donner aussi des lettres de noblesse, parce que quand on fait du montage vidéo, c'est super de savoir faire ça, et le système scolaire ne le valorise pas assez. On essaye de le valoriser. Par contre, les usages créent des risques, créent un certain nombre de conditions qui font que dans certains cas, les plus jeunes sont en difficulté, et croisé à ça les facteurs sociaux de niveau d'éducation ou de maîtrise de la lecture qui font que même des jeunes peuvent être en grande difficulté face au numérique, parce que dans le numérique, il y a quand même besoin de lecture aussi.
Ouais, absolument. PPC, les jeunes.
Les jeunes, moi je trouve, il y a un truc qui m'a marqué, moi, c'est Snapchat, en fait, à ses débuts. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à ses débuts, en fait, eux, ils ont joué la barrière à l'entrée. C'était incroyable. C'est-à-dire que l'appli, en fait, c'était une sorte de club ouvert à tout le monde, mais en fait, il était fermé parce qu'en fait, il y a que ceux qui connaissaient les codes qui pouvaient s'en servir correctement. À l'époque, il n'y avait pas la table barre, il n'y avait pas ces sujets-là. Il fallait swiper à droite, à gauche, etc. Et ce qui était extraordinaire, c'était que finalement, c'est dans les cours de récréation, il y avait ceux qui avaient trouvé le hack, qui avaient trouvé la façon d'amener la fonction et qui l'expliquaient aux autres copains à la récré. Et donc, en fait, c'est finalement, ils se sont lancés en jouant sur le côté, on va pas être accessible, ça va pas être facile, mais c'est comme ça qu'on va créer.
Ça se mérite.
Et donc, on met de côté tous les vieux. À l'époque, on parlait pas des boomers, mais on les met de côté parce que eux, ils comprennent pas les codes. Chouette, on va les laisser aller sur Facebook.
Mais c'est fait exprès.
C'était fait exprès, bien sûr. Le problème là-dessus, c'est que c'est pas parce que tu touches ta bille sur TikTok, sur Snapchat ou sur BeReal ou sur Insta qu'en fait, que tu sais remplir une déclaration d'impôt, que tu sais utiliser LinkedIn pour bien packager ou te faire repérer, enfin ton profil ou te faire repérer par les recruteurs, que tu sais comment postuler directement sur un job board, et donc tous ces trucs-là, c'est là où on a eu l'erreur, et t'as raison, Benjamin, de penser que le digital native, il était bon partout. Non. Et en fait, ça revient sur le sujet, on est tous un peu électronistes parce qu'on n'est pas bon partout. Et ça amène, je pense, d'autres façons de voir. Moi, c'est ce que j'adore avec le digital pour tous. C'est-à-dire que j'apprends tous les jours des sujets. Je me rends compte que, je ne sais plus quel était l'acteur qui disait « je sais que je ne sais pas », enfin quelque chose comme ça. Mais j'apprends tous les jours. Et donc, en fait, il y a des sujets de se former en permanence, quoi. Et je trouve que l'électronisme, en fait, c'est... comment dirais-je, c'est un peu un sujet. C'est comme si on était sourd et muet dans un monde de sons et de voix. Et finalement, cette situation de handicap qu'on peut tous être amenés à vivre à un moment donné, même si, et tu le disais Carlos, il y a deux populations. Il y a ceux qui n'ont même pas accès aux outils, au hardware. Hein. Puis il y a ceux qui ont la chance d'y avoir accès et qui n'ont peut-être pas assez d'expérience sur les usages. Donc, ils ne connaissent pas les codes du numérique. Donc, en gros, on peut tous être rapidement aussi en situation de décrochage. Le Web3, l'IA qui arrive, etc., peut aussi jouer sur ces sujets-là.
On va en parler. En même temps, j'ai envie de dire, pour réagir à ce que vient de dire PPC, c'est que Snapchat, ils ont gamifié le truc, c'était cool. Et voilà, je ne connais pas de jeunes qui se sont dit « Tiens, je vais te montrer le hack pour poser ma candidature à Pôle emploi, quoi, tu vois. » Parce
Dommage.
Que c'est pas fun, quoi, en fait, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi d'ergonomie et de design, en fait, des services? Il y a une vraie différence entre une app comme Snap et certains sites du service public, même si ça s'est beaucoup amélioré.
Il y a des sujets de facilitation de l'accès au service public, hein, parce que dans certains cas, quand on a besoin des tonnes et des tonnes de formations pour se saisir d'un site, c'est qu'il y a un problème qui concerne le site, en fait. Donc, il y a ces éléments-là. Après, on voit quand même, enfin, moi, je trouve qu'il y a une forme de grammaire commune du UX, etc., qui arrive à s'installer. Et aujourd'hui, on fait plus les sites comme avant dans la plupart également des services publics. Hein. Je veux dire, c'est pas uniquement pour prêcher pour la paroisse, mais
mais c'est vrai que c'est plutôt réussi.
Il y a des choses qui évoluent. Et d'ailleurs, après, ce qui est assez drôle, c'est que par exemple, des gens qui vont d'ailleurs, un peu parce qu'en préparation, il y a des gens qui vont sur Pix et qui pensent qu'on est une boîte parce qu'on a des codes esthétiques qui peuvent être similaires à celui d'une boîte alors qu'on est un service public. Il y a quand même beaucoup de services publics qui aujourd'hui se fait comme ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a une responsabilité immense de simplification. Après, ça n'épuise pas le besoin et il y a aussi les difficultés qui sont liées aux démarches administratives en tant que telles. Je sais que moi, il m'est arrivé de faire à titre associatif des actions de un peu écrivain public numérique, ce qui était super intéressant d'ailleurs pour pour Pix en tant que tel. Même si c'était pas lié à Pix. Et il y a beaucoup de choses, en fait, derrière. Il y a de l'écrit. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui étaient écrivains publics avant qu'ils aient écrivain public numérique. C'est une raison. Parce qu'il y a un rapport à l'écrit, il y a un rapport à la connaissance administrative, à savoir comment on répond aux formulaires, les termes veulent dire quoi, etc. Enfin, c'est compliqué, en fait. Donc, on a ça, mais démultiplié par le fait que, y a une personne qui se retrouve à ne pas avoir de mail, et puis, en fait, elle a besoin de mettre un mail, et c'est parce que c'est un mail, et puis elle sait pas le faire, et puis elle a le mot de passe, j'en parle même pas. Donc, il y a à la fois de la formation. Ça c'est super important, nous c'est ce sur quoi on travaille, et en même temps de la facilitation de l'accès et aussi de la facilitation du travail de ceux qui aident, les aidants sociaux par exemple. Ça c'est un projet, c'est pas celui de Pix, mais c'est des collègues dans le combat de l'inclusion numérique qui s'appelle Aidant Connect par exemple, et c'est la possibilité organisée par l'État qu'une personne prenne ta place pour faire une démarche, mais c'est déclaré. Parce qu'en fait, dans certains cas,
sorte de tuteur, quoi, en fait,
voilà,
que tu prends,
etc., qui peut faire une démarche à ta place avec. En fait, il prend le contrôle de ton compte pendant un temps. Mais c'est en fait une fonction reconnue et c'était pas reconnu avant. Sinon, ce que tu fais, tu crées le mail, tu mets le mot de passe de la personne sur un bout de papier. Et c'est quand même pas fou. Voilà, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment une stratégie, on va dire multidimensionnelle, qui doit être mise en œuvre. Et la formation, c'est quand même le cœur du réacteur. Mais faut pas croire non plus qu'on épuisera tout.
Alors quand on regarde les populations qui sont le plus touchées hein, par cet électronisme, bien évidemment, c'est toujours les mêmes, hein, forcément. On a parlé des adultes plus âgés, effectivement, qui quelque part se retrouvent désœuvrés parce que effectivement le gap il est plus important. Ils partent avec 10 mètres de retard, quoi, en fait, pour faire un 100 mètres, ça c'est évident. Mais bien évidemment les communautés à faible revenu ou les communautés défavorisées, je pense aussi notamment aux immigrés, hein, qui arrivent sur le sol français, qui non seulement doivent s'adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle société, à des formulaires qui sont en ligne en français, des choses comme ça. Par exemple aux États-Unis, c'est en Californie, on a beaucoup moins ce problème-là. Tous les services publics sont disponibles en anglais et aussi en espagnol, par exemple. On a accepté le fait qu'on avait des populations de cultures différentes dans les démarches administratives, même si, très honnêtement, quand on vit aux États-Unis, on se dit que la France est quand même vachement bien équipée en termes de services digitales. par rapport aux États-Unis. Puis les personnes handicapées hein, aussi, hein, quand je regardais les chiffres, c'est elles et les communautés rurales, bien évidemment, qui sont pas forcément super équipées, parce qu'on a l'impression que l'Internet, il est disponible comme, j'allais dire comme l'électricité, même si l'électricité aujourd'hui devient aussi compliquée, mais dans les communautés un peu isolées rurales, même l'accès à Internet, aujourd'hui, si t'as pas du haut débit, tu prends un retard colossal. Donc, c'est toujours les mêmes, Benjamin, qui sont touchés par cette fracture.
Alors, toujours les mêmes, on va dire moins les jeunes auxquels on n'aurait pas forcément pensé et qui sont
exactement
quand même au cœur du,
ouais,
au cœur du sujet. Sur les questions de la ruralité, moi-même vivant dans un tout petit village de la Nièvre, il y a quand même un changement qui est en train de se passer là. Les raccordements sont en train de se faire, par exemple, au très haut débit, dans tous les hameaux de tous les villages, par exemple, dans la Nièvre, tout est fait là. Ce qui est assez incroyable en termes de... Et je pense que ça va produire des effets et c'est très important parce qu'effectivement, c'est un problème grave, en fait, pour ce territoire-là.
Bah, moi, je viens du Limousin. Hein. Je peux te dire qu'en Creuse, c'était pas le cas, quoi.
Voilà, mais c'est en train... Enfin, pour le coup, là, il y a un plan de raccordement qui coûte extrêmement cher, mais qui est un investissement dans l'avenir et qui est important. Mais après, en dehors de ça, oui, bah, bien entendu, quand il y a des évolutions, bah, c'est des publics qui peuvent être plus fragiles parce que bah, c'est plus difficile de se former quand on a un certain âge, parce que c'est plus difficile de se former dans les publics qui sont fragilisés par la situation d'électronisme. Il y a beaucoup de gens qui ont des niveaux d'éducation, tu parlais des revenus, mais qui ont des niveaux de diplomation, ben forcément on les retrouve ici aussi. Donc on a, oui, on a ces sujets-là. Après, nous, en fait, et c'est très important de ne pas stigmatiser. C'est pour ça, par exemple, nous, ce qu'on a essayé de faire au travers de PIX, c'est vraiment de construire quelque chose qui est tout au long de la vie. Parce qu'au final, moi je ne sais pas, comme le disait VVC tout à l'heure, peut-être que dans 20 ans, je serai complètement largué parce que Web3, il aura fait je ne sais quoi. Voilà. Dans certains cas, même, j'apprends des choses.
Bah, si tu ne suis pas le Web3, ce qui se passe, tu risques d'être très largué, voilà, très vite. Non, parce qu'effectivement, il se passe plein de choses. Et ouvrir un wallet, manipuler des cryptos...
Et donc, on le voit parce que ça bouge tout, ouais, le temps. Et en fait, ce que l'on dit, c'est pas juste un effort national ou international de sur la formation aux compétences numériques maintenant. En fait, il faut des services qui aident les uns et les autres à développer leurs compétences numériques tout au long de la vie et surtout qui s'oxygène avec les évolutions du numérique. Et donc, en fait, on a essayé de concevoir un modèle de données autour de ça.
Oui, mais est-ce que justement, nous, on est des geeks, ok, enfin, moi, je me considère comme un geek, donc j'adore ça. Je consomme du digital comme je boufferais des M&M's.
Mais il faut qu'on revienne
donc,
vers toi
plus
avec les évolutions, quand
ouais,
t'es pas un geek.
Ouais, exactement. C'est justement ce que j'allais vous poser la question. Le problème, c'est que est-ce que ça ne va pas trop vite, cette histoire, et que les gens, au bout d'un moment, ils sont dans une sorte d'obésité digitale et ils en ont marre parce qu'il y a trop de trucs, ça va trop vite. PPC,
ouais.
On les assomme quotidiennement avec des nouveautés digitales, les unes plus incroyables que les autres, jusqu'au jour au bout d'un moment où on a ce phénomène qu'on appelle, hein, qui est un terme, hein, que c'est les abandonnistes, c'est-à-dire que des gens qui abandonnent le digital.
C'est ça, alors je pense que t'as le tapis roulant des innovations qui arrivent en permanence, c'est parce que ça fait bouger le business, etc. Et donc ce tapis roulant, il arrive face à nous, donc en fait si on n'avance pas, ben, finalement on recule. Et puis il y a toute cette dématérialisation qui s'est accélérée toutes ces dernières années. Je crois qu'il y a très peu de services. J'ai du mal, j'en cherche, tu vois. Quels sont les services qui ne se sont pas encore dématérialisés? En fait, il y en a en permanence. Et ça s'accélère encore et encore et encore. Et tu as raison, il y en a qui en ont ras-le-bol. C'est compliqué d'arrêter de nous mettre des interfaces avec que des applicatifs. On veut voir des vrais gens. On veut avoir des gens qui vont prendre un peu de temps et un peu de bienveillance pour nous expliquer calmement, parce que tout ça va trop vite, il y a des notifs dans tous les sens. Alors là, ils ont changé la page, machin, avant j'avais l'habitude, maintenant ça y est, c'est foutu. Enfin, ça ne fait que s'accélérer.
Alors, oui, mais PPC, ouais, et je pose la question à Benjamin, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que, est-ce que... Moi, je comprends que les gens disent, moi aussi, j'aimerais bien avoir quelqu'un à mes côtés qui m'accompagne chaque fois que j'ai un truc à faire, mais est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce que finalement, ce digital, on parle beaucoup d'ailleurs d'avoir des services publics maintenant dans le métaverse pour essayer de recréer une forme de proximité sociale mais dématérialisée, digitale, je sais pas ce que ça va donner, hein, cette histoire là pour pas être face à une page qui est très quelque part intimidante. Mais Benjamin, est-ce que le gouvernement, est-ce qu'on en a, est-ce que notre société a encore les moyens de mettre des personnes réelles face à ces questions.
Il faut.
Il faut, ouais. Mais on a l'impression, le digital, c'est pas simplement, ce que je veux dire par là, c'est que si le gouvernement a fait cette accélération, c'est pas pour être moderne. Ok, bon, on a un président qui nous explique Startup Nation, il saute dans tous les sens, mais c'est pas simplement pour une question de modernité, c'est aussi pour une question de coût. Ça coûte moins cher de dématérialiser.
En fait, il faut faire des gains avec la dématérialisation pour libérer de l'argent, pour pouvoir faire de l'humain là où il y en a besoin.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Juste sur les différents éléments là. Pour moi, un des points, bon déjà les compétences numériques, elles évoluent tout le temps, mais il y en a quand même qui restent pareilles. Hein. Faut pas l'oublier. Depuis
par exemple.
Je sais pas moi, ces histoires de recherche d'information, il y a quand même un certain nombre de choses qui n'ont pas bougé quand même.
C'est en train de bouger
avec ChatGPT, Google.
Ce que je veux dire, il y a toujours des parts qui bougent, mais il y a des parts qui ne bougent pas. Et en plus, quand on parle de l'électronisme, on parle de la grande difficulté, l'électronisme, là, c'est vraiment la partie la plus difficile. La base. Il y a des rapports, ce qui est une donnée personnelle, etc. C'est le même concept il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans le cadre réglementaire avec le RGPD, etc., etc. Donc, il y a quand même de l'invariant. Et tout ne bouge pas tout le temps, même si ça grandit. Donc, c'était quand même un point important parce que sinon, on peut donner l'impression que c'est une course qui va être complètement perdue. C'est pas uniquement ce cas-là. La deuxième chose, c'est le côté obésité, ras-le-bol. Une des compétences numériques, c'est d'apprendre à gérer l'infobésité, la limiter, par exemple, gérer ses notifications. C'est un pan de compétences numériques de savoir éviter cette surcharge cognitive de toutes les alertes, etc. Ça fait partie des choses sur lesquelles on essaye de former les gens. L'économie de l'attention et l'enjeu qui est lié autour de l'économie de l'attention, du fait qu'on va toujours chercher à vous capter du temps de cerveau, ça fait partie des éléments que les gens doivent appréhender dans le monde numérique derrière. C'est une compétence ou une connaissance peut-être en la matière qu'il faut savoir appréhender. Donc, il y a aussi savoir gérer et vivre dans ce monde pour qu'il reste vivable. Ça, c'est le cas. Et puis après, je termine là-dessus.
Une écologie, il faut Exactement. Que chacun développe une forme d'écologie face à tous ces services-là et priority
voilà.
Et maîtrise et contrôle, en fait, ces outils. PPC, est-ce qu'on est face à une obésité cognitive? Est-ce que le digital ne prend pas trop de place finalement dans nos vies? Et comment est-ce qu'on fait pour gérer ça?
Je pense que le sujet, tu t'as branché sur le gouvernement. Je pense que c'est la même chose pour les entreprises d'ailleurs. En fait, je pense que le gouvernement, il est pris entre l'accélération de tout ce qui est dématérialisation, parce que ça va dans le sens, effectivement, c'est plus efficace, etc. Et en même temps, il y a la nécessaire inclusion pour éviter ce qui, à mon avis, est l'enjeu majeur. Et on parlait d'argent. Je pense que ça peut coûter très très cher si une partie de la population décroche. Donc en fait, on ne peut pas laisser des gens sur le carreau. On fait acte de société tous ensemble. Et donc c'est très important, je pense, et c'est valable pour le gouvernement comme pour les entreprises, de travailler sur ce qu'on appelle la nécessaire symétrie des attentions. C'est-à-dire que faire attention. Et puis, il y a des sujets, et tu le parlais un petit peu, Benjamin, là-dessus, d'interface utilisateur. Je pense que là où la techno gagne toujours, c'est quand, grâce à la technologie, elle arrive à simplifier les parcours utilisateurs, à aider les gens. C'est quand elle s'efface qu'elle gagne. C'est, à mon avis, un des énormes sujets du Web3. Pour l'instant, la techno est tellement omniprésente, peut-être parce qu'on est juste sur une phase d'infrastructures qui sont en train de se monter. Mais tant qu'elle sera aussi présente, eh ben en fait, elle va empêcher une partie des personnes de pouvoir y accéder. Voilà, donc ça, c'est un sujet fort.
Alors, je vous propose dans la deuxième partie de l'émission de regarder justement ce que fait le gouvernement sur ces questions-là et aussi les entreprises privées. Alors, on parle cette semaine avec mes invités dans Silicon Carnet de l'électronisme. Je suis en compagnie de PPC, Chief Digital Officer. Chief Digital Evangelist. Donc, ça tombe très, très bien, même si le terme d'évangéliste, des fois, il a une connotation un peu négative. Mais il est surtout podcaster. Voilà, il fait des signes de croix, vous le voyez pas, là. Il est en train de nous sanctifier, quoi, en fait, digitalement. Et il est aussi podcaster. Je vous invite vraiment à écouter son podcast Bonjour PPC tous les matin à 6h30 et le digital pour tous. Et aussi, je suis en compagnie de Benjamin Marteau, qui est le directeur de Pix, une start-up du gouvernement qui aident justement à nous tenir informés des nouveautés en termes de digital et surtout de nous faire en sorte que nos compétences soient à niveau, et notamment chez les jeunes, mais pas que seulement chez les jeunes. Si vous appréciez cet épisode, vous pouvez acheter le NFT de l'émission. C'est une façon originale de manifester votre intérêt et d'accéder aux notes de cette émission, et elles sont nombreuses. Et n'hésitez pas non plus à partager cet épisode à travers vos réseaux sociaux. Je lis tous vos commentaires, que ce soit sur Twitter, Facebook ou LinkedIn. Alors on continue cette conversation passionnante avec vous. J'ai envie de vous poser la question de mais que fait la police? Mais que fait le gouvernement? Peut-être tu peux commencer, Benjamin. Mais a priori, bon, on le voit avec Pix, c'est un service public, donc il y a des actions. Moi, je suis impressionné par les chiffres que vous avez. Et visiblement, ça date pas d'hier, puisque vous avez commencé il y a déjà quelques années. Moi, j'avais lu que le gouvernement avait injecté 250 millions d'euros dans le plan de relance en faveur de l'inclusion numérique, et avait pour objectif de former 4000 conseillers pour proposer des ateliers d'initiation au numérique aux 12 millions de personnes qui en ont besoin. C'est une réalité, ça, Benjamin? C'est que de l'annonce ou non, ça existe?
C'est pas du mytho, hein. C'est pas du mytho, ça existe. C'est les conseillers numériques France Service, ils s'appellent. C'est 4000 qui ont été recrutés, formés à la fois à l'exercice du rôle de médiateur numérique, un rôle qui existait par ailleurs et qui existait déjà avant, et qui vise à aller au contact de la difficulté numérique et des gens pour essayer de les rendre le plus autonomes possible. Et tout ça s'insère dans le cadre d'une stratégie qui était la stratégie nationale pour l'inclusion numérique, avec une stratégie qui avait été élaborée il y a de ça maintenant 4-5 ans, et qui a permis, et en fait, grâce au plan de relance, on a pu avoir des moyens là où on n'avait pas encore, là où c'était difficile de trouver des sous, hein, concrètement, pour avancer. Et la grande force de ça, c'est que ce qu'on essaye de faire de manière générale, je dis on parce que je m'inclus dedans dans la logique de action publique qui essaye de relever ce défi-là, qui est un défi énorme, hein, quand on parle des volumes en question sont énormes, c'est à la fois de faire de l'industriel, du massif, des choses qui peuvent bénéficier à énormément de gens. Quand je disais Pix, sur l'année 2022, on a eu 6,5 millions d'utilisateurs actifs. Donc, quasiment à 10% de la population française, presque.
Non, mais il faut dire quand les trucs bien se font, et ça, c'est un truc génial.
Après, on peut toujours,
hein,
faire mieux, il y a plein de choses qu'on veut faire, on a plein de trucs en tête.
6 millions, c'est significatif comme chiffre.
Ça commence à être gros. Après, on sait que pour certains publics, on peut être utile. Dans certaines configurations, pour certaines compétences, on arrive à marquer des points, à faire progresser les gens et à en donner envie d'apprendre aussi, parce qu'on essaye de donner envie d'apprendre. Par contre, dans certains cas, il y a besoin d'humains à côté. Et c'est vraiment la symbiose des deux. Et d'ailleurs, nous, on pense aussi le déploiement de nos services à la fois quand tu es en mode tout seul ou quand tu es en mode accompagné par un formateur, que ce soit un enseignant dans les collèges ou un médiateur ou les conseillers numériques France Service. Et c'est l'alliance des deux. Tout à l'heure, sur la question, est-ce qu'il faut de l'humain ou du digital? Vraiment, je prends un exemple, Pôle emploi. On a 550 000 demandeurs d'emploi qui ont passé du PIX l'année dernière. À la fin, nous, on a un petit diagnostic, on a essayé de les faire progresser, mais on a quand même un diagnostic. Il y a des recommandations de formation qui peuvent leur être adressées. Mais nous, cette recommandation-là, on peut la faire de manière automatisée, par exemple, pour qu'il y ait le maximum de gens qui puissent en bénéficier. Mais il y a des gens qui ont besoin d'un accompagnement.
Mais est-ce qu'ils le font? Alors, est-ce qu'ils le font? C'est-à-dire, tu leur fais la reco, ok, bon, d'abord, il y a une forme de self-assessment, je sais pas comment on dit en français, de
auto-évaluation.
D'auto-évaluation, merci. Excuse-moi, je parle un peu comme Jean-Claude Van Damme. Mais qu'est-ce que ça donne après quand tu leur dis bon bah là il faudrait que tu te formes sur ces trucs-là? Est-ce que vraiment les gens le font, quoi? Est-ce qu'ils sont intéressés par ça?
Il y a différents cas. Il y a des gens qui ont autre chose à faire mais qui n'ont pas pour objectif de progresser, donc voilà. Il y a des gens qui en ont besoin et qui vont aller voir les formations en question auxquelles ils ont accès parce qu'ils sont demandeurs d'emploi. Là, on était chez Pôle emploi, mais ça vaut dans une entreprise, hein. Et tu as des gens qui vont pas franchir le pas et qui, eux, ont besoin d'un accompagnement humain et qu'il faut aller chercher, outillé par les données, mais qu'il faut aller chercher pour leur proposer des formations dont on sait en plus qu'elles sont adaptées à leurs besoins parce qu'on les a mesurées, ces besoins-là. Et c'est là où il faut cibler de l'humain. Mais tu peux pas faire l'humain là pour tout le monde. Et il y a une chance, c'est qu'avec les outils qu'on développe, on peut réduire l'intensité, on va dire, humaine, quelque part. C'est pas très beau comme formulation, mais on peut arriver à concentrer le tir, mais il faut vraiment le faire, mais on peut concentrer le tir sur ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est ça, en fait, l'alliance.
Quelques détails sur ces formations, quelque part, qui sont proposées par le gouvernement. Donc, il y a ces conseillers numériques qui vous proposent des sessions de 90 à 120 minutes. Hein. C'est quand même pas rien, quoi. En fait, c'est pas 10 minutes. Hein. Elles sont à destination des jeunes adultes, des demandeurs d'emploi, aider aussi des seniors. D'ailleurs, il y a un site hein, qui s'appelle solidarité-numérique.fr. Il y a des tutoriels. On vous explique comment créer un compte LinkedIn, comment effectuer des démarches administratives, créer une adresse Gmail ou un compte Amélie, par exemple. Et il y a aussi un numéro dont je vais le donner, qui est un numéro, je ne sais pas s'il est gratuit, où on peut s'entretenir avec un médiateur téléconseillé. C'est le 01 70 77 23 72. Donc, il y a vraiment des outils qui ont été mis en place. Et en même temps, l'actualité nous rattrape. On a le ministre de l'Éducation nationale qui a annoncé la suppression d'une heure de technologie en sixième. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Parce que tout d'un coup, la technologie, on entend tout ça, quoi, en fait, et on supprime une heure. Papendiaï, pour l'entrée au collège, cette heure, elle va être utilisée à autre chose. Parce que je suppose que PIX et tous ces trucs-là, ça se fait dans les heures de techno, non?
Alors non, justement. Moi, j'ai pas les tenants, les aboutissants de la suppression de l'heure de techno en sixième. Par contre, ce que je sais, c'est que les compétences numériques, elles se développent pas du tout uniquement dans les cours de technologie. Évidemment que dans la technologie, il y a ces sujets-là. Mais
les profs, ils ont plein de trucs à faire. Alors, on va demander aux profs de français, aux profs de maths,
ils font déjà,
en plus du programme, de aussi former étudiants.
Par exemple, le prof d'histoire dans le rapport aux sources. Donc, c'est pas, on va demander, hein, c'est déjà ce qui se passe. C'est-à-dire que PIX, aujourd'hui, quand c'est utilisé par les enseignants, c'est pas du tout utilisé uniquement par les profs de techno. Par exemple, je sais pas, la recherche d'information, c'est pas le monopole du professeur de techno, c'est tous les enseignants en réalité. Et le pari qui est fait côté éducation nationale, c'est que ces compétences numériques en tant que telles, elles ont vocation à pouvoir être développées au travers de tous les enseignements. En maths, il y a des bribes de programmation dans les programmes de maths du cycle 4, donc c'est 5e, 4e, 3e, par exemple. Ça, c'est une partie qui est couverte en maths. Le rapport aux sources dans les fake news, quand même un élément sur les compétences numériques, c'est rapport aux sources. C'est des choses qui se traitent aussi en enseignement moral et civique ou qui se traitent en histoire géo, par exemple. Donc, il y a plein de choses en réalité, déjà, que beaucoup de profs font déjà, n'ont pas attendu PIX d'ailleurs non plus pour le faire. Et nous, on essaye déjà de les valoriser. Et ensuite, on essaye de motiver le maximum d'enseignants à le faire, des outillés pour le faire. Et voilà.
Bien sûr. PPC.
Ouais, moi, je crois que c'est parfait parce que tout ce qui est fait, je pense, va vraiment dans le bon sens.
Non, c'est top. Hein. Il faut le souligner.
Il faut le saluer. Ouais. Je pense après, il y a aussi un sujet qu'il faut intégrer. Mais c'est comme un peu, il faut pas que les parents ou la famille se déchargent sur l'école aussi. C'est un peu comme pour l'éducation. Si on dit qu'il y a 17% de personnes qui sont en situation de handicap numérique, ça veut dire que globalement, chacun d'entre nous, si on prend 10 personnes, on en a presque deux qui sont un peu paumés. Voilà. Ceux qui connaissent un peu, là, on peut peut-être tendre la main, prendre un peu le temps, apprendre à pêcher, aider à faire. C'est aussi peut-être que ça viendra. Je pense que la solution, alors je ne sais pas si on est dans les solutions encore, mais il y a effectivement ce
qu'on peut faire à l'école. Allons-y dans les solutions.
Et puis aussi, ce que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, papa, enfant, peut faire pour aider les autres. On l'a vu pendant le confinement, certains jeunes aidaient certains profs à monter un serveur Discord parce qu'il n'y avait pas les infrastructures Teams ou Meet qui permettaient au moins de pouvoir travailler et se retrouver ensemble pendant la classe. Donc, je pense qu'on peut tous filer un coup de main à deux personnes autour de nous. Déjà, si on fait tous ça, je pense que ça va vraiment accélérer.
Moi, je suis issu d'une famille, d'une classe sociale, pas très élevée, quoi, en fait. Et moi, je me rappelle j'ai vécu en HLM pendant 18 ans et ma mère faisait des courriers pour nos voisins et qui venaient à la maison pour remplir un formulaire administratif. C'était quelque chose qui s'organisait. Sauf que le digital, quelque part, il a aussi isolé la pratique et l'usage parce qu'on, c'est difficile de partager. J'ai un écran, tu vois, tu viens pas. Avant, tu buvais le café, tu venais avec ton formulaire, on parlait des gamins et puis du boulot et des trucs comme ça, et on remplissait le formulaire sur le coin d'une table. Et j'ai vu ma mère faire ça de nombreuses fois et aider plein de monde là-dessus. Et c'est vrai, t'as raison, Pépé, c'est qu'on peut tous faire ça. Mais le support en lui-même se prête pas énormément en fait à ce genre de pratique. Benjamin, tu parlais aussi des écrivains publics, c'est une bonne analogie, ouais. Ouais, il faut qu'on se transforme tous en ça, quoi.
Aujourd'hui, ça se fait sur des coins de table, mais sur le coin de table, il y a un ordinateur qui est posé dessus, hein. C'est, ouais. ça se fait comme ça, je veux dire, concrètement. C'est pas forcément plus compliqué, si ce n'est que on n'a pas l'accès. Avant, bah, t'avais ta feuille d'impôt. Moi, j'ai vu mes parents faire exactement ce que tu écris pour ta mère. En zone rurale.
Bon, nous, ils payaient pas des impôts, hein, chez nous. Hein, donc, c'était plus les feuilles de la Sécu que les feuilles d'impôt.
Pour aider
mais oui.
les gens à remplir, l'avantage, c'est que t'avais accès directement, t'avais toutes les infos. Le problème, quand tu fais l'écrivain public numérique, c'est qu'il faut que t'essayes de retrouver les bribes d'identité numérique que la personne a déjà.
Ben oui.
Donc, c'est là où il y a une.
C'est plus compliqué,
quoi. Il y a des
quoi.
Éléments de complexité un peu plus fortes. Mais en tout cas, le parler pair, parce que là, c'est, au final, c'est ça. C'est parler pair ou de l'entraide. Mais c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Après, ça peut s'outiller l'entraide. Je prends un exemple dans une entreprise, par exemple. Nous, on travaille aussi. Ouais. Dans les services publics, on a plein d'élèves et d'étudiants, de demandeurs d'emploi. Mais on a aussi un peu plus de 170 000 actifs, des professionnels en activité, qui ont fait du PIX en 2022, à l'invitation de leur employeur, la plupart du temps. Que ce soit ouais. dans des boîtes, alors PME, grands groupes, etc. Chevron, par exemple, tu vois. C'est... Et, ou des, dans la fonction publique, parce qu'on est agent public. Et, par exemple, Bercy a décidé de, proposer PIX pour tous les agents de la Direction Générale des Finances Publiques et des services de Bercy, du ministère de l'Économie en France. Donc, tu as ça. Une des choses que l'on essaye de faire et qui se fait beaucoup, c'est d'identifier des gens qui peuvent être des sortes de... Souvent, quand on est dans les boîtes, ça va être des digital champions et quand on est du côté public,
on va parler de ça,
c'est plutôt
PPC,
des référents ouais. numériques. Toi. Mais c'est, ouais. peu importe, l'idée est la même. C'est que à une échelle de confiance, parce que souvent c'est pas facile aussi de reconnaître qu'on peut avoir des, ouais. des difficultés ou c'est pas toujours facile d'aider ou de recevoir de l'aide. Dans des liens de proximité, ça peut être au sein d'un établissement scolaire, on essaye de faire émerger des gens, de reconnaître aussi le rôle, parce qu'en fait ça prend du temps, donc ça peut se faire sur une base volontaire, mais si les employeurs peuvent reconnaître ça et le valoriser, bah c'est pas plus mal, parce que ça permet de le faire.
Mais comme dit PPC, au-delà du service public, ou voire même des entreprises dont on va parler maintenant, il y a aussi à notre niveau individuel, moi je pense que si on a un message à passer là, c'est que quand on entend quelqu'un dans notre entourage qui dit « Oh là là, je galère, machin, y a, plutôt que de le laisser tout seul, on peut répondre en disant « Écoute, si tu veux, on prend une heure et on le fait ensemble. » Et on prend le temps, chacun peut prendre le temps de s'aider les uns les autres. Et c'est vrai que des fois, on oublie en fait ce genre de choses-là. Et c'est un truc parmi les solutions assez facile à faire. Est-ce qu'il y a des associations, Benjamin, qui œuvrent à ça sur des population particulière que tu as envie de au-delà du service public de signaler quoi en fait des choses intéressantes que tu aurais vues
Alors c'est difficile d'en signaler une plutôt qu'une autre mais il y a une foule d'associations d'ailleurs qui dans certains cas accueillent des conseillers numériques dont je parlais tout à l'heure qui ont pu avoir une foule de collectivités aussi parce qu'il y a les associations mais il y a les collectivités locales qui font énormément de travail sur le sujet souvent avec des financements qui sont pas faciles d'ailleurs à conserver et à trouver. Là, j'ai pas un nom en particulier parce qu'en plus c'est difficile.
Ben, si vous en avez, si vous qui écoutez l'émission, voilà ce que je propose. Regardez, je vais proposer un truc. J'avais pas du tout pensé à ça. J'ai proposé un truc pendant l'émission. Si vous avez des idées d'associations, parlez, donnez-nous dans vos commentaires des gens que vous connaissez qui sur le terrain aident véritablement à combler cette fracture numérique. Et on va reverser toute la vente des NFT de cette émission à cette association. Voilà ce qu'on peut faire parce que ça sert à ça. Silicon Carnet se mobilise, pas simplement pour lui-même, mais aussi on peut se mobiliser pour des gens comme ça. Donc, si tu penses à des assos, toi, Benjamin, ou si nos auditeurs pensent à des assos, envoyez-moi ça et moi, je m'engage à ce que les ventes du NFT, c'est pas des fortunes, hein, mais ça sera peut-être 200, 300 euros. Quoi en fait soit reversé à cet asso qui aide directement sur le terrain. On parle un peu des entreprises PPC parce que là on a parlé beaucoup du grand public et de toutes ces populations. On en est où dans les entreprises? On a parlé beaucoup de transformation digitale hein, depuis maintenant un paquet d'années. Ça a été à marche forcée cette histoire-là, essentiellement d'ailleurs dans les grands groupes. Elles en sont où les entreprises aujourd'hui dans leur transformation digitale?
Les entreprises, elles ont bien progressé, c'est-à-dire qu'il y a une maturité qui s'est opérée de façon plutôt volontariste dans des grands groupes. Il y a eu effectivement le choc aussi, et c'était un moment de vérité, le Covid et le confinement. C'est-à-dire celles qui s'étaient préparées et qui avaient déjà attaqué, mis les infrastructures pour pouvoir travailler en visioconférence, avoir des éléments qui sont partagés, partageables, etc., elle, ça a bien fonctionné. Celle qui n'avait pas fait le boulot...
Mais quand on regarde le résultat des entreprises, a priori, tout va très bien, quoi, en fait. Pour le CAC 40, ça n'est jamais bien, aussi bien porté.
Ouais. Pour moi, il y a la deuxième phase qui est en train d'arriver. Donc, on va dire que peut-être sur le digital, ça y est, on est passé dans des phases un peu de digital inside, c'est-à-dire c'est dedans. C'est pas juste une équipe de champions qui maîtrise. Maintenant, ça y est, tout le monde est un peu dedans. Bon, il y a des sujets liés à la data aussi, parce que là, c'est pareil aussi. Il y a les phases de data qu'il faut arriver à intégrer, comprendre la donnée. Qu'est-ce que c'est une donnée responsable? Qu'est-ce que c'est le RGPD? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette data? Ça, c'est un des premiers enjeux. Et puis, il y a, je dirais, tous ces, je pense, changements aussi culturels qui sont en train de s'opérer. Je te le disais, il y a un de mes podcasts aussi, parmi mes trois podcasts, s'appelle MGMT, Management Nouvelle Génération, parce que je me suis aperçu qu'il y avait une génération de managers qui étaient plutôt les managers de proximité qui sont un peu paumés en fait. C'est-à-dire qu'en fait avec ce tout numérique...
Est-ce que c'est une question générationnelle ou pas?
Pas forcément ça. Non, c'est ceux qui ont gardé les codes d'avant en fait. Les codes du management, du petit chef, etc. Donc qui n'ont pas pris le tempo du management actuel. Et ils sont pris entre ce que disent les amis qui habitent de l'autre côté de la Grande Mare, ils se reconnaîtront. Un petit clin d'œil pour eux. En fait, c'est les managers qui sont entre l'écorce et l'arbre, tu vois, c'est ceux qui sont pris entre les injonctions des grands chefs à plumes et puis les nouvelles demandes des collaborateurs qui maintenant finalement ont beaucoup plus d'attentes. Et on voit sur la nouvelle génération, ils veulent pas des chefs, ils veulent pas des gens qui ont des tonnes de médailles,
ils veulent des
gens qui sont compétents déjà. C'est-à-dire si t'es le leader, tu dois être compétent. C'est pas par rapport aux guerres que tu as fait avant, mais c'est est-ce que t'es compétent sur ce sujet? Est-ce que tu m'aides à grandir? Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Et donc ça, c'est un renversement aussi.
Et est-ce que t'es cool aussi?
Ouais,
hein,
y a ça aussi. Alors, faut être cool. Enfin, machin,
ça,
etc.
C'est tout est cool aujourd'hui, quoi.
Mais tu vois, c'est des nouveaux codes aussi de management qui vont plus vers du leadership, du coaching, peut-être une capacité aussi à mieux responsabiliser, à former la formation importante, à donner du sens, à faire grandir. Enfin bref, c'est un changement incroyable en termes de posture. C'est un très fort changement de transformation. Et puis, on a en parallèle les nouvelles technos qui continuent, ça ne s'arrête pas. Il y a le Web3 qui arrive, ça va pas être tout à fait simple. Alors, on n'en est qu'au début hein, de ce Web3, mais bon, il pointe son nez et dans 7-8 ans, ça y est, on sera tous Web3 fluent, j'espère. Mais il y a ça aussi à préparer. Et puis, il y a l'IA qui vient foutre un bins incroyable, là. Donc, gros sujet.
Benjamin, quand j'entends PPC, moi, je... Oui, bien évidemment, on parle des gens dans le secteur du tertiaire, mais moi, je peux pas m'empêcher de penser à la femme de ménage, tu vois, qui, on lui demande de nettoyer des bureaux, des trucs comme ça, et puis qu'en même temps, on lui dit, bah, il faut que si tu veux poser tes congés, il faut que tu ailles sur le site, je sais pas quoi. Son interface au quotidien, c'est un balai, hein, c'est pas un écran, quoi, en fait. Donc, est-ce que... Oui, PPC.
Alors, non, en fait, il y a un énorme changement qui est en train de s'opérer là-dessus. C'est-à-dire que dans les entreprises, celles et ceux qui nettoyaient l'entreprise, qui étaient souvent planqués, tu vois, c'était les invisibles en fait.
Ouais.
Ils deviennent visibles, c'est-à-dire qu'en fait, ils passent aux horaires où il y a du monde.
C'est bien.
Ça, c'est un phénomène extrêmement nouveau, c'est extrêmement agréable, c'est-à-dire qu'on se dit bonjour, on se parle et il y a voilà. Et puis, ils sont très outillés en fait, parce qu'ils sont formés par les grandes boîtes qui gèrent ces sujets-là. Ils sont formés, ils ont un téléphone mobile, ils ont des applications, ils ont des gens qui leur ont expliqué comment ça marche.
On l'a vu avec Uber et Deliveroo, ils sont super connectés.
En fait, moi, je pense que c'est en train de changer. Ça existe encore, hein, ce que tu dis, Carlos, mais c'est en train de bouger et ça plutôt dans le bon sens. Je sais pas ce que t'en penses, Benjamin.
Ouais, mais est-ce que je vais être un peu, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je vais faire mon punk de service.
Allez, c'est
là. En fait, c'est est-ce qu'on n'a pas mis le digital au service de l'asservissement de certaines populations? Quand je dis ça, je pense à des Deliveroo, des Uber ou des trucs comme ça. C'est formidable de voir qu'en fait le digital sert aussi à mettre la pression sur les gens à travers leur téléphone. On le voit l'état de stress dans lequel sont ces populations qui travaillent à des livraisons, à du transport ou des trucs comme ça. Et on a l'impression que l'accès le digital a aussi accéléré cette forme d'asservissement professionnel. Je ne sais pas, Benjamin, peut-être... Là, je suis désolé, c'est vraiment un point de vue très perso.
C'est super intéressant. Le numérique, c'est un pharmacon. C'est ce que disait Bernard Stiegler. C'est ni bien ni mal, ça peut être un poison, ça peut être un remède. Il est ce que l'on en fait, c'est un outil quelque part. Moi, je pense pas qu'il y a, il est pas genré le numérique, donc il peut tomber d'un côté ou l'autre de la tartine selon ce que l'on en fait. Et une des convictions qu'on a côté PIX et pas mal de collègues, c'est que la question des compétences et de la maîtrise par chacun des compétences, il est majeur pour faire tomber le truc du bon côté de la tartine. Je pense pas que ce soit derrière nous le sujet des compétences. Je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais PPC sur le sujet des compétences. Nous, on intervient dans des grands groupes, hein. Alors ça montre qu'il y a une démarche, mais ça montre qu'il y a aussi un sujet. Donc on intervient dans des grands groupes qui sont BTP, etc., et dans lesquels il y a des sujets. Et effectivement, le sujet, c'est récupérer la feuille de paie, la fiche de dématérialisation des fiches de paie, etc., etc. Pas forcément même pour l'exercice du métier, mais ne serait-ce que dans la relation même administrative avec son employeur, pour le dépôt des congés, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est pas forcément de l'asservissement, c'est tout simplement pour même pour exercer ses droits ou pour la communication. Donc c'est un intérêt pour l'entreprise, parce que ça peut abaisser ses coûts, mais c'est aussi pour des questions de fluidification de la communication au sein d'entreprises, a fortiori quand elles sont grandes. Ça, aujourd'hui, c'est pas si simple que ça. Ça présuppose des démarches importantes. Nous, on intervient par exemple pour diagnostiquer le niveau, pour savoir où est la difficulté et puis essayer de motiver les gens à apprendre et les aider à apprendre. Mais c'est des démarches qui sont encore devant nous, hein. C'est pas derrière. Après, bon, effectivement, Uber, bon, bah, si jamais t'étais pas déjà, ça passe pas. Il faut que c'est indispensable.
Non, mais ils ont bien digitalisé, hein. Eux, ils ont bien. Il y a pas de problème. La transformation, elle s'est bien faite. Mais elle peut. Ce que je voulais dire par là, c'est que cette transformation digitale et les gens qui sont Uber drivers sont pas des. Ils sont pas victimes d'électronisme, hein. Au contraire. Hein.
Ah bah ça, c'est sûr. Là, t'as un frein à l'entrée. Tu ne peux pas rentrer si jamais tu es dans cette situation-là. Ouais. Par contre, ce que je veux dire, c'est que dans des grands groupes ou dans du BTP ou des choses comme ça, mais pas que le BTP, hein. C'est, je prends un exemple. Parce que j'ai l'exemple en tête.
Oui, c'est un bon exemple.
C'est encore devant nous. Voilà. En tout cas, c'est pas derrière nous, et y compris sur les compétences numériques qui peuvent être considérées comme de base. Mais ce qui est très important, c'est que ce que fait l'entreprise, même pour elle-même, en investissant dans la formation, bah, c'est aussi utile pour la citoyenneté, pour l'exercice de la citoyenneté, pour la vie associative bah, des personnes qui bénéficient. Parce qu'en fait, on parle des mêmes compétences. C'est pas des compétences exclusivement.
Elles sont transverses.
Elles sont transverses. Et ça, c'est quelque chose, je sais que je répète tout le temps ce truc-là, mais c'est pas compris. C'est pas assez. Les gens n'ont pas suffisamment conscience. On parle des mêmes compétences.
Ça sert à la société en général.
Exactement.
En fait.
Et ce que la société, et ben ça sert à l'économie. Et en fait, on est sur les mêmes types de compétences.
Alors, on a 3 minutes pour parler de l'IA. ça mériterait une émission à part entière. PPC, toi, tu considères que là, on a en face de nous quelque chose de super intéressant qui pourrait aider justement à combler cette fracture numérique, ou au contraire, est-ce que ça ne va pas encore l'agrandir ?
Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, cette intelligence artificielle. Par contre, il faut se dire que ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil. Et comme tous les outils, je pense qu'il faut... Le mettre à sa place, en fait, il faut apprendre à s'en servir, hein, c'est sûr, il faut apprendre les bons gestes, apprendre quand savoir s'en servir, en complément de quoi. Donc je pense que c'est un peu comme apprendre à cuisiner, quoi, voilà. Après, je pense que la solution, pour moi, elle viendra pas avec ça, c'est avec de l'intelligence humaine, voilà, que ça va aider. Je pense que le fait de travailler avec ceux qui souffrent, tu vois, parce que on souffre de handicap, je pense que sans forcément le dire, mais il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Il faut qu'on travaille avec eux en intelligence humaine pour les aider à réussir. Et quand on est des super champions, et moi je pense que ces personnes qui souffrent de handicap, en fait, sont une aide pour celles et ceux qui préparent les interfaces, qui préparent finalement l'expérience utilisateur du plus grand nombre, parce que comme ils arrivent avec leur handicap, c'est un peu comme avec le mobile, hein. Quand on fait travailler quelqu'un qui a un bras invalide et donc qui doit tout faire avec son pouce pour faire une application mobile, ben cette personne-là, je peux te dire qu'elle va t'aider énormément à faire une interface qui soit hyper facile à utiliser pour les personnes en situation de handicap, et ça va aider encore plus tous ceux qui ne sont pas en situation de handicap. Donc tu vas être un champion de l'expérience utilisateur grâce aux personnes qui sont en situation de handicap. Donc je pense qu'on pourrait gagner à tendre la main, à aller vers ceux qui sont en situation de handicap, à travailler avec eux, justement pour bien comprendre là où ça pêche, là où on comprend plus un process, là où on comprend pas une interface. Bon, moi, ma reco, c'est tendez la main à ceux qui sont paumés par le digital, le web 3, par l'IA aussi. Et je pense que c'est ça qui va nous aider à être vraiment meilleurs. L'IA, c'est qu'un outil.
Oui, mais il y a un truc dans l'IA qui est nouveau. c'est qu'il y a presque un élément de sorcellerie. C'est-à-dire que on ne comprend pas, c'est-à-dire que les résultats sont inexplicables. C'est-à-dire que on est face à des objets pratiquement magiques qui échappent même d'ailleurs à leur concepteur. C'est ça qui est incroyable. Comment on se met à expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut même pas comprendre, puisqu'il y a une forme d'intelligence, pas de pensée. Quand j'ai fait une émission sur ChatGPT, les nerds m'ont bien expliqué que l'intelligence artificielle ne pensait pas, mais peu importe, on a le sentiment qu'elle pense. Et donc on est face à qu'elle pense ou qu'elle ne pense pas, on s'en fiche, mais on a le sentiment qu'elle pense. Mais on est face maintenant, on rentre dans une ère avec cette intelligence artificielle qui est pratiquement une ère de sorcellerie, quoi, en fait. Benjamin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne, parce que...
Il n'y a plus de maîtrise totale.
Pour moi, l'intelligence artificielle responsable, en fait, c'est celle où on a une explicabilité sur les choses. Et je pense que c'est de la grande responsabilité des plateformes, de ceux qui nous proposent ça, d'avoir un côté éthique, un côté où on va avoir de l'explicabilité. Ce tour de magie-là, il est très pernicieux. C'est-à-dire qu'en fait, il va amener des biais incroyables. Peut-être nous enfermer chacun dans notre bulle avec ChatGPT, où on va avoir en retour un truc qui va nous enfermer encore un peu plus que les bulles digitales que nous avions. Donc moi, je dis attention, explicabilité, ça devrait être un must-have.
Benjamin, est-ce que cette IA, aujourd'hui, elle est entre les mains des plus avancés, même si elle se démocratise énormément avec ChatGPT, puisqu'il y a plusieurs millions d'utilisateurs déjà qui utilisent ChatGPT. Mais comment est-ce que toi, tu accueilles en fait cette arrivée de cette intelligence artificielle, parce que c'est vraiment, on a l'impression d'être passé du boulier à la calculette, c'est assez impressionnant ce qu'on arrive à faire en fait avec ça et le temps qu'on gagne, notamment en termes de rédaction.
Alors, du premier élément, ta IA. L'IA, ça date pas de ChatGPT et ni même du deep learning. Et j'avais fait une session de recherche avec sur nos données, les données de PIX avec des chercheurs, et t'avais 5 chercheurs différents qui avaient des définitions différentes de l'IA à chaque fois. Donc, quelque part, on a déjà de l'IA embarquée dans nos outils. Je pense dans PIX, on a un test qui s'adapte au niveau des uns et des autres. Selon certaines catégorisations, ça compte comme de l'IA. Donc, t'as des éléments qui peuvent être utiles, ça c'est clair. ChatGPT, là, avec la dimension, là, l'explosion, autour de ça et de manière générale, ou même les deepfakes qui sont sortis récemment, ça pose des vrais sujets. Moi, je suis un peu la même approche que ce que je disais tout à l'heure sur le numérique, c'est que je pense qu'il va falloir qu'il y aura toujours un combat entre des usages et des mésusages, et que les curseurs, ils vont se déplacer en fonction des... À un moment, on va aller trop loin, à un moment, on régule. Par contre, de manière générale, le phénomène boîte noire, il pose vraiment question, parce qu'en plus, il est consubstantiel à la technologie, là, sur le côté deep learning et compagnie. Et... en termes de souveraineté même, il y a deux points. Il y a le point côté déjà transparence en tant que tel de ce qui s'y passe. Le problème, c'est que même ceux qui le font ne peuvent pas assurer vraiment la transparence. On peut peut-être faire la transparence déjà sur les données qui ont alimenté et les algorithmes. Je sais que moi, à titre personnel, je suis assez convaincu qu'il faut une sorte de CNIL des algorithmes et que tous les algos doivent pouvoir être auditables par structure publique.
Alors, et open source si possible aussi.
Open source, nous on est open source par exemple, PIX, tout ce qu'on fait sur GitHub, vous retrouvez, voilà. Je ne sais pas si on peut imposer, j'aimerais bien, et donc nous on travaille. Je travaille avec d'autres, notamment avec Henri Verdier, qui est l'ambassadeur de France au numérique,
bien
à
sûr.
Faire émerger des communs numériques, donc déjà avec une politique offensive de l'État associé avec d'autres États pour contribuer au commun numérique en lien avec la société civile, pour faire en sorte qu'on évite l'appropriation, on va dire, des algorithmes, mais aussi un manque de transparence, je pense, sur les technologies éducatives. L'éducation, c'est le cerveau de nos enfants. On a des algorithmes qui peuvent faire des choix, qui font des choix. Ces choix, ils doivent être connus, ils doivent être transparents, et le minimum, à défaut de transparence, c'est que des acteurs publics capés, compétents, formés, experts, ils puissent vérifier un certain nombre de choses.
Auditer.
Voilà, parce bien. Que on peut pas non plus, je sais pas si c'est économiquement viable le reste, mais je suis sûr d'une chose, c'est que c'est possible d'auditer. Sur le deep learning, ce qui est compliqué, c'est que tu peux pas expliquer ce qui s'est passé exactement.
On peut poser la question deux fois à ChatGPT, il aura deux réponses différentes, d'ailleurs.
Ouais.
Et mille fois, il aura mille réponses différentes. C'est ça qui est incroyable.
Donc voilà, après, on sait les données qui ont alimenté. Tu parlais des biais tout à l'heure, PPC. On peut savoir quelles sont les données qui l'ont alimenté. Donc des biais, tu peux le retrouver dans les données. Qui ont alimenté le... Voilà, donc je pense qu'il va falloir retrouver un certain équilibre. Je pense pas non plus qu'on puisse se dire que ça va être unilatéralement négatif. Mais je pense pas non plus qu'on va régler la fracture numérique avec ça.
Bon, écoutez, c'était super de vous parler. On fera certainement une émission dédiée en fait à ce sujet de l'intelligence artificielle et de la fracture numérique. Ça mériterait en tout cas une émission à part entière. Mais comme le disait PPC, on a l'impression que le tapis roulant vient encore une fois d'accélérer et il va falloir jouer à la Mario Bros encore une fois et courir un petit peu dans tous les sens pour capter en fait tous ces trucs là. Il y a l'intelligence artificielle, il y a le Web 3, les cryptos, il y a tout un tas de trucs. On vous avait du pain sur la planche. Pix a de quoi devenir une unicorne, ça c'est sûr, parce que il y a du boulot effectivement et c'est un enjeu majeur comme on l'a dit dans cette émission. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Silicon Carnet. Hasta luego amigos.